Je voudrais partir d'un épisode, d'un dialogue entre M. Lévi-Strauss et André Breton. En 1958, André Breton publie « L'art magique », un long essai en grande partie consacré aux arts non occidentaux. Je cite « À la connaissance scientifique qui prétend étendre sa domination sur toute invention humaine », écrivait Breton, le fondateur du surréalisme opposait une conscience lyrique universelle qui permettait une compréhension directe, selon lui, de tout art. Qu'il soit conçu comme primitif ou comme évolué, qu'il soit familier ou exotique, l'art répond en tout temps et en tout lieu, selon Breton, à un instinct universel. N'importe quel connaisseur, affirme-t-il, peut donc comprendre n'importe quelle œuvre d'art. En appendice à cet essai, Breton publiait les commentaires de personnalités de l'époque reçus en réponse à ces questions. Philosophe, historien de l'art, artiste ou écrivain, les interlocuteurs choisis par Breton s'accordaient sur un seul point, celui de l'existence d'un art magique traversant les époques et les cultures du monde. Les œuvres illustrant le volume, alors du Bosch, Archimboldo, des masques africains ou océaniens, des tableaux de Dali ou de Max Ernst, en étaient les témoignages flagrants. Il suffisait donc de feuilleter les livres pour savoir ce que c'était qu'un art magique. Parmi les réponses publiées, on en trouvait une qui s'écartait nettement des autres, je dirais presque une seule. C'était celle de Claude Lévi-Strauss. Aux questions posées par l'auteur de l'art magique, l'anthropologue répondait par une seule phrase, assez sèche, assez courte. Je cite « Vous avez, monsieur, choisi de poser votre définition de l'art à un niveau où le sens se dissout. » Point. Cette déclaration fit date et marqua pour longtemps les relations entre l'anthropologie et le monde de l'art. Il s'agissait à l'époque pour une Il s'agissait à l'époque, pour une ethnologie qui venait à peine de s'affirmer, de faire face à l'esthétique primitiviste. Les avant-gardes littéraires et artistiques, tout en se passionnant pour les arts primitifs, cultivaient une grande méfiance vis-à-vis de toute approche anthropologique de l'art. Dans l'esthétique primitiviste, qui postule l'universalité du langage de l'art, n'importe quel objet peut être compris indépendamment de la signification qu'il revêt dans la société où il a été conçu. Breton était loin d'être le seul à défendre cette idée. L'exemple de cette orgueilleuse ignorance avait été donné par Picasso lui-même, qui déclarait, je cite, « Je ne sais rien des sculptures africaines de ma collection, je les regarde et je sais donc tout ce qu'il faut savoir. » Au XIXe siècle, l'ethnocentrisme occidental, Ruskin par exemple, avait sérieusement mis en doute l'universalité de l'art. « Rien qui ressemble à l'art n'a jamais existé en dehors de l'Europe », écrivait Ruskin. Au XXe siècle, le primitivisme voyait de l'art partout, mais refusait d'en développer une connaissance rationnelle. Dans l'un comme dans l'autre cas, une anthropologie de l'art n'avait pas sa place. La passion, presque la colère, qui vibre dans la réplique de Lévi-Strauss à Breton, n'est donc pas seulement liée aux circonstances d'une polémique entre structuralisme et surréalisme. Elle rappelle les critiques que le grand anthropologue formulait à la même époque contre, je cite, « ceux qui préfèrent le style à l'analyse ». Fin de citation. Je crois savoir qu'il pensait à Roger Caillois. Elle révèle aussi les fondements de tout projet, du projet intellectuel de Lévi-Strauss pour qui la réflexion de l'art sur l'art a toujours été un enjeu essentiel. De Tristes Tropiques à ses toutes dernières œuvres, Lévi-Strauss n'a jamais cessé de s'intéresser à la création artistique. On trouve naturellement dans ses écrits des études très précises sur les arts amérindiens, du Brésil ou de l'Amérique du Nord. Ce sont par exemple les analyses des peintures faciales des Indiens Caduveo du sud du Brésil, une sorte de blason porté sur le visage, marquant le rang social et le prestige des femmes. Mais l'étude de ces dessins est pour Lévi-Strauss l'occasion de définir un concept de style, Philippe Descola l'a rappelé, qui va bien au-delà de l'analyse des formes artistiques. Ainsi, professe-t-il que l'ensemble des coutumes d'un peuple, je cite, est toujours marqué par un style et que c'est par le style qu'on peut reconnaître que ces coutumes forment des systèmes. Alors c'est dès Triste Tropique qu'on trouve cette déclaration. Je suis persuadé que ces systèmes n'existent pas en nombre illimité et que les sociétés comme les individus, dans leurs jeux, leurs rêves ou leurs délires, ne créent jamais de façon absolue, mais se bornent à choisir certaines combinaisons dans un répertoire idéal qui serait possible de reconstituer. Fin de citation. En faisant l'inventaire de toutes les coutumes observées par les ethnologues, mais aussi, poursuit Lévi-Strauss, de toutes celles imaginées dans les mythes ou évoquées dans les jeux des enfants et des adultes, les rêves et les conduites psychopathologiques, on parviendrait à dresser une sorte de tableau périodique, comme celui des éléments chimiques, où toutes les coutumes réelles ou simplement possibles apparaîtraient groupées en famille et où nous n'aurions plus qu'à reconnaître celles que les sociétés ont effectivement adoptées. Donc il y a toujours ces jeux entre ce qui est imaginable et ce qui est réalisé. Et ça, on va voir que c'est un des instruments les plus pertinents précisément à l'analyse de la formulation des images. Lévi-Strauss a toujours eu en tête cette idée qu'une image suppose une autre image. Une image possède un espace latent, et cet espace latent est peut-être tout à fait l'objet de l'analyse anthropologique. On trouve dans ses écrits des analyses sur les arts asiatiques et océaniens, des remarques à propos d'œuvres de Clouet, de Greuze, de Delvaux, de Poussin, des surréalistes, des cubistes, des impressionnistes, etc. Les références aux arts plastiques sont si nombreuses et apparemment si hétérogènes dans son œuvre qu'on a pris l'habitude de distinguer d'une part le regard de l'ethnologue, qui étudierait en utilisant un langage relativement technique les arts des Indiens du Brésil, par exemple, ou de la côte du Nord-Ouest, et d'autre part celle du connaisseur passionné, qui commenterait de manière plus rapide les œuvres de tel ou tel artiste occidental. En réalité, cette manière d'appréhender son œuvre est incomplète et trompeuse. La réflexion sur l'art chez Lévi-Strauss ne se limite ni aux arts primitifs, ni à un commentaire des enjeux théoriques de l'histoire de l'art occidental. Elle influence la définition même de l'objet de l'anthropologie structurale. Dès La pensée sauvage, publiée en 1962, l'art en tant que phénomène culturel universel est reconnu comme un des grands thèmes soumis à la réflexion anthropologique au même titre que le mythe, le jeu ou le rituel. En fait, la grande richesse et l'apparente hétérogénéité des thèmes artistiques évoqués dans son œuvre s'expliquent par l'ambition d'universalité qui anime toute sa pensée. Dès La pensée sauvage, donc, le défi est lancé. Si l'analyse structurale est correctement menée, l'étude d'un masque amérindien doit pouvoir faire apparaître des éléments abstraits qui pourront s'appliquer à d'autres manifestations artistiques et donc à l'œuvre d'un artiste occidental, un portrait de Clouet, un tableau d'histoire de Greuze, une toile de Poussin. Lévi-Strauss admet que tout art est lié à l'émotion esthétique. Il admet aussi que cette expérience peut être considérée comme universelle. Mais l'expérience de l'art reste à ses yeux, et c'est très important, mystérieuse. Qu'est-ce qui fait l'efficacité d'une image? Pourquoi ce sentiment d'admiration, ce plaisir que nous associons à la perception de certaines œuvres? Le point de départ de cette réflexion n'est pas, comme on pourrait le croire, l'étude d'un masque Kwakiut ou d'une peinture faciale amazonienne. Il s'agit, au contraire, d'un maintenant très fameux portrait de femme de Clouet. Regardons ce portrait, écrit Lévi-Strauss, et interrogeons-nous sur les raisons de l'émotion esthétique très profonde que suscite inexplicablement, semble-t-il, la reproduction fil par fil et dans un scrupuleux trompe-l'œil d'une collerette de dentelle. L'explication de l'anthropologue ne se réfère nullement à la personnalité du peintre. Ça, c'est très important. Voilà une absence. Voilà une absence qui en dit long sur ses choix théoriques. L'auteur, en tant que principe d'organisation d'un discours sur l'objet artistique, est virtuellement absent de la substance de ses argumentations. L'analyse lévi-straussienne vise au contraire un aspect négligé de la nature même de la représentation par l'image, c'est la réduction d'échelle qu'elle implique nécessairement. Voilà un de ces traits élémentaires qu'on n'avait pas thématisé jusqu'à cette page de La pensée sauvage. La collérette peinte par Clouet est, je cite, « comme les jardins japonais, les voitures en réduction et les bateaux dans les bouteilles, ce qu'en langage des bricoleurs on appelle un modèle réduit de la réalité ». L'œuvre de l'artiste donne donc avant tout un modèle réduit du monde où nous vivons. Nous appréhendons donc d'une image la totalité avant d'en comprendre les parties, parce qu'elle peut être dans notre main, comme ce masque de la côte du Nord-Ouest que M. Lévi-Strauss tenait dans la main dans le film que Marie Mosé nous a montré. D'un seul regard, nous dominons l'ensemble d'une représentation avant de comprendre les éléments qui en composent le fonctionnement. Associée à l'idée que l'image est faite de main d'homme, cette thèse permet donc de rendre compte du pouvoir, entre guillemets, magique de la représentation plastique et de la possibilité toujours latente de lui attribuer une subjectivité. Statuette ou peinture, l'œuvre d'art pourra ainsi acquérir une personnalité proche de celle d'un être humain. C'est ainsi qu'on peut penser que l'idée d'une vie associée à l'image n'est pas une simple croyance exotique venant de pays lointains ou primitifs, elle est au contraire une des racines universelles de l'expérience esthétique. L'anthropomorphisme serait donc une des racines de l'expérience esthétique. Ce qui est vrai d'une idole africaine ou d'une massue polynésienne vaut aussi pour l'art européen. Du point de vue de l'anthropologue, la différence entre l'art de l'Occident et les arts dits primitifs ne concerne donc ni la technique ni l'évolution du style. Elle porte plutôt sur la nature du modèle représenté par l'artiste. Dans « Regarder, écouter, lire », donc quelques années plus tard, Lévi-Strauss fait une remarque à ce propos. Je cite « On peut parler d'art primitif en deux sens, soit que l'insuffisance du savoir-faire et des moyens techniques empêche l'artiste d'atteindre le but qui se propose, imiter son modèle, et ne lui permettre que de le signifier, tel serait le cas de l'art que nous appelons naïf, soit, deuxième cas, que le modèle présent à l'esprit de l'artiste, étant surnaturel, échappe par essence aux moyens sensibles de représentation, par excès d'objet et non plus par un défaut du sujet, l'artiste ne pourra là aussi que signifier. Sous des modalités diverses, l'art des peuples sans écriture illustre ce dernier cas. » Plus tard, Lévi-Strauss développera encore cette réflexion dans un passage mémorable de La Voix des masques, qui a déjà été rappelé. Il remarquera que l'étude des objets peut aussi être menée selon un point de vue nouveau qui vise, plutôt que les objets pris singulièrement, la manière dont ils sont classés par les cultures et les relations qu'on peut établir entre eux. Je cite, « Il serait illusoire d'imaginer, comme tant d'ethnologues et d'historiens de l'art le font encore aujourd'hui, qu'un masque, de façon plus générale une sculpture ou un tableau, puisse être interprété chacun pour son compte, parce qu'il représente ou par l'usage esthétique ou rituel auquel on les destine. » Nous avons vu au contraire qu'un masque n'existe pas en soi. Il suppose, toujours présent à ses côtés, d'autres masques réels ou possibles. Nous espérons avoir montré qu'un masque n'est pas d'abord ce qu'il représente, et c'est là l'essentiel, à mon avis, de ce passage, mais ce qu'il transforme, c'est-à-dire ce qu'il choisit de ne pas représenter. Fin de citation. À partir de cette intuition, l'approche anthropologique passe de l'étude de l'œuvre à l'analyse du système des motifs, ou plutôt à l'ensemble des traditions iconographiques qui caractérisent l'ensemble d'une culture. Dès lors, l'anthropologie qu'il avait définie comme l'étude de la vie sociale des signes se double d'un nouveau projet. Or, ce projet est au centre de la recherche contemporaine. Et pour ma part, je voudrais en montrer simplement quelques conséquences et quelques, comme l'a dit Philippe, quelques ébranlements. Il y a dans les indications de méthode que j'ai rappelées non seulement donc cette absence importante de la référence à la notion d'auteur, il y a une double stratégie. D'une part, il s'agit d'éviter l'étude d'images isolées en organisant des séries iconographiques où il faut considérer aussi bien les choses qu'on voit que les cases vides. Là, Lévi-Strauss développe toute une tradition qui est celle de Boas, mais derrière Boas, Pete Rivers, Stolpe et d'autres grands ethnologues qui ont donc inventé cette méthode de la connexion par la forme dans une tradition que Lévi-Strauss a toujours très très bien connue, qui est celle de la biologie des images, donc fondée par Pete Rivers au XIXe siècle, dans les années 50-60 du XIXe siècle, et dont le musée Pete Rivers à Oxford montre encore aujourd'hui le paradigme. Et puis, d'autre part, donc première indication de méthode, la série avec les cases vides, avec les espaces latents, et d'autre part, l'idée de saisir une image à travers les opérations mentales que cette image implique. Donc, il ne s'agit, c'est précisément à la place de la toile de fond organisante, pour ainsi dire, qui est celle de l'auteur, qu'on trouve une analyse des opérations mentales implicites, impliquées par l'existence même de l'image. Ces deux stratégies de méthode ont beaucoup changé la donne, je crois, dans l'anthropologie de l'art, et reste tout à fait valable aujourd'hui. Je voudrais en donner brièvement un exemple pour montrer quelles sont les éventuelles conséquences et les éventuels ébranlements que cette approche produit. On peut considérer, en guise de développement possible de ces principes d'analyse, un cas amérindien qui peut paraître de premier abord relativement simple. Il s'agit des vanneries des Yekuana, un groupe de langues caribes qui, bien que probablement originaire de l'Amazonie méridionale, habite aujourd'hui la région du Haut-Orénoque entre Venezuela et Brésil. Les travaux, notamment de Marc de Sivrieux, nous ont permis d'acquérir une connaissance relativement détaillée de la mythologie de ces chasseurs et agriculteurs amazoniens. Je vais la résumer très rapidement. Il s'agit d'un long cycle d'histoire relatant les épisodes sanglants d'un conflit qui, aux yeux des Indiens, régit tout l'univers. Ce conflit oppose un personnage positif, qui s'appelle Wanari, associé au soleil, et qui préside notamment à la culture des humains, techniques d'agriculture, de pêche, de chasse, de fabrication d'artefacts, etc., à son frère jumeau, Odosha, qui incarne naturellement le mal, les malheurs, la maladie et la mort. Or, il y a là un schéma tout à fait classique, mais pour ce qui singularise cet exemple, c'est que ce couple de jumeaux n'est pas symétrique, pour ainsi dire, c'est-à-dire que le personnage positif est donné toujours perdant. Il est isolé dans un coin du ciel, à côté du soleil, tandis que le personnage négatif, lui, il prospère, il est partout, et surtout, il se métamorphose tout le temps en toute une série d'autres animaux. Il peut être un singe, il peut être une chauve-souris, il peut être un serpent, etc. C'est pour ça donc, que le jumeau de chat, entouré de ses démons, souvent représenté par des maîtres invisibles des animaux et des plantes, est constamment présent, proche et menaçant. Ceci explique aussi qu'Odosha puisse être représenté par une longue série d'êtres maléfiques. Or, il y a là, en effet, chaque acte lié à la pêche, à la chasse ou à la cultivation des plantes s'accomplit pour les Yekuana contre la volonté d'une foule de maîtres invisibles qui sont censés posséder les animaux et les plantes. Il s'agit donc d'une certaine manière de rendre sensible quelque chose qui n'est pas visible, et nous allons voir que précisément c'est à cela que l'iconographie s'attache, représenter la présence, pour ainsi dire mentale, d'êtres qu'on ne perçoit pas à la lumière du jour, ou dont on ne perçoit pas tout, pour ainsi dire. On en perçoit des apparences, des peaux, des présences, mais il y a toujours derrière quelque chose d'autre. À ce principe de dissymétrie entre le bien et le mal s'ajoute l'idée d'un processus de transformation constant de l'un dans l'autre. Toute acquisition culturelle, qu'il s'agisse d'armes, de vanneries, d'ornements ou de peintures corporelles, est pour les Yekuana les résultats d'une transformation du mal ou des êtres qui en dépendent. D'où l'idée d'une constante ambiguïté qui frappe tous les êtres de l'univers. Tout ce qui est utile et bénéfique, y compris les paniers en vanneries que les hommes décorent en préparant leur mariage, inclut une part transformée d'un être maléfique. Donc on a là deux idées. D'un côté, gros déséquilibre entre le bien et le mal. Le mal est représenté par une série de transformations, une série linéaire de transformations. Et d'autre part, terme par terme, dans la série, chaque personnage possède sa propre ambiguïté, peut être mal et bien à la fois. Or, je ne veux pas tout reprendre, mais il est intéressant de voir que ces constats d'ethnographes ont des conséquences qui concernent l'iconographie. Après avoir longuement appris la technique indigène de la vannerie, le jeune ethnologue américain, à l'époque, Donald Goss, pouvait confirmer que les Yekuana possédaient bien une tradition graphique associée à certains aspects de leur mythologie, mais il constatait qu'elle était radicalement singulière, radicalement différente à ce qu'on avait pu imaginer. En fait, c'est intéressant de voir un contraste très important quand Marc de Sivrier avait constitué son recueil de mythes. D'une part, il avait transformé une floraison diverse, pour ainsi dire, d'histoire en une sorte de grande séquence de l'origine à nos jours, en reprenant un modèle narratif typique. Mais il avait aussi demandé aux Yekuana qu'il connaissait, il était missionnaire, d'illustrer, de donner des images de ces personnages mythologiques. Il avait donc obtenu ce qu'on, à l'époque, on voyait normalement comme un pictogramme amérindien, c'est-à-dire, selon la définition d'Hoffmann du 19e siècle, dans les années 80, some rudimentary means to represent basic ideas. Donc, on avait là des petits dessins, un petit monsieur, une petite maison, etc. etc. En fait, ce que Donald Goss découvrait, bon, il y a deux choses qu'il a découvertes. D'abord, qu'il n'y avait pas d'histoire telle que Marc de Sirieux avait publiée dans son recueil de mythes, et qu'au contraire, la mémoire des mythes était plutôt confiée à Deschamps, qui semblait quelque chose comme des listes de noms propres, plus que tout à fait des situations d'énonciation où on racontait, par exemple, assis autour du feu, les histoires de Wanadi ou de Dosha. C'était plutôt la forme chant qu'on pouvait constater sur le terrain, mais aussi que l'iconographie yekuana n'avait strictement rien à voir avec ces dessins qui pouvaient illustrer ces histoires. Elle était toutes différentes. Voilà, je vous donne rapidement des exemples. Voici la manière dans laquelle la tradition yekuana représentait des personnages comme par exemple le capot ou le serpent. On ne trouvait donc pas dans la tradition amérindienne de figurines grossières, humaines ou animales, pas de hutte chancelante ou d'horizon mal tracé, mais ces différences ne se limitaient pas à la forme, L'iconographie que Gass découvrait possédait un champ d'application tout à fait spécifique. Aucune action, aucun épisode du cycle mythique n'y était représenté. Seuls les noms de certains personnages étaient traduits en images. Sur les vanneries apparaissaient donc des représentations d'apparence géométrique, abstraite ou faiblement iconique, représentant un nombre fini de personnages bien identifiés dans la mythologie, tels que crapaud, serpent, vautour ou chauve-souris. Un des aspects les plus surprenants des observations de Gass est donc que les pictogrammes, ou ces dessins, comme les chants adressés au maître du gibier et des plantes cultivées, n'enregistrent que la mémoire de certains noms propres des personnages mythiques. S'appuyant sur plusieurs exemples, Gass montre bien que ces listes de noms constituent les véritables foyers de mémoire des narrations mythiques yekuana. C'est en effet par les toponymes qu'on peut, dans cette tradition, indiquer les époques successives de la mythologie, et c'est par les noms des personnages qu'on peut mémoriser leurs histoires. On comprend donc que la mémoire visuelle de la mythologie repose sur une iconographie spécifique qui restitue une sorte de catalogue fini et bien identifié de ses noms propres. Une analyse des schémas graphiques typiques de cette iconographie montre qu'au lieu de tenter de représenter tel ou tel épisode dans un espace plus ou moins réaliste, comme selon toute vraisemblance essayaient de faire des illustrations que Marc de Sivrieux avait annexées à son recueil de textes, les pictogrammes yekuana reflètent un niveau plus profond d'organisation du savoir mythologique. Voilà. En fait, il s'agit là d'un ensemble d'idées qui se trouvent traduites en forme iconographique. Voyons comment. Très brièvement. Comme nous l'avons vu, les deux grands motifs de cette mythologie sont 1. L'opposition constitutive entre deux grands groupes de personnages, positifs et négatifs, dissymétriques, et 2. L'idée qu'un processus de transformation continuelle les affecte tous. Ces métamorphoses ont deux modalités. D'une part, on peut avoir la notion d'une créature multiple qui, comme Odosha, prend la forme de toute une série d'autres êtres. Et d'autre part, ce processus de métamorphose incessante peut conduire à investir une même créature d'une ambiguïté constitutive qui en fait simultanément une instance positive et négative. Or, l'iconographie yekuana permet de traduire point par point, en termes visuels, avec économie de moyens et précision, ces deux principes d'organisation du monde mythique. En fait, les thèmes visuels qui traduisent les noms d'esprit dérivent tous d'un seul thème graphique, une sorte de T inversé qui représente le personnage qui se transforme, Odosha, le principe du mal.
Voici donc Odosha, qui est représenté par une sorte de double T inversé.
Vous excuserez ma transcription barbare de ces formes, mais en fait, on peut tout à fait déchiffrer ce système iconographique comme un système de transformation, plutôt de permutation perceptive, optique, qui, en travaillant sur le même élément, nous donne une série de personnages différents de la mythologie. Donc, effectivement, il s'agit bien de transformation d'un personnage central, une sorte de ur-forme, qui engendre le système des iconographies yekuana. Donc, il est facile de voir qu'au moyen de quelques transformations géométriques que simples, toute la série des autres personnages de la mythologie sont engendrés à partir de ce premier thème graphique. En fait, ces graphismes traduisent à la fois la multiplicité d'animaux différents, singes, serpents ou crapauds, et leur unité en tant que forme dérivée d'un même être originaire. Les différents personnages sont ainsi construits à partir d'une seule forme de base, dans un système qui permet de représenter non seulement des personnages bien identifiés, mais aussi leurs relations possibles. On voit bien, en apercevant le singe ou en apercevant le crapaud, Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a l'identité graphique d'Odosha. Ces relations entre figures d'analogie, d'inclusion ou de transformation indiquent donc une organisation interne propre à un système de représentation qui se fonde évidemment sur un critère unitaire. Mais il y a plus, ce n'est pas tout, n'est-ce pas ? La technique visuelle que nous venons de décrire implique aussi un jeu de formes et de fonds, sur laquelle les Yekuan sont très disert, qui permet de représenter à la fois un être spécifique et une de ses métamorphoses possibles. Je prends une dernière image. En fait, si vous regardez Odosha selon la forme blanche et ensuite selon la forme noire, hein, vous voyez apparaître Awidi, c'est-à-dire le serpent. Hein. Vous avez là une sorte de jeu hein, qui est tout à fait productif en association d'idées dans l'enquête d'Ogas. Cette possibilité d'une double représentation, ou plutôt d'une représentation en forme d'être potentiellement double, concerne plusieurs personnages de la mythologie, les singes, les chauves-souris ou les crapauds. L'exemple le plus frappant est sans doute celui de la représentation dite Worotosakeri, celle-ci qui représente alternativement, selon qu'on focalise l'attention sur la forme ou sur le fond de l'image, Odosha ou Awidi, qui est une de ces transformations en forme de serpent. En fait, comme l'a bien vu Gass, le vrai sujet des graphismes Yekuan n'est pas tel ou tel personnage, mais plutôt la relation dynamique en forme de transformation latente entre les deux images de l'un dans l'autre. Nous trouvons donc dans une série iconographique apparemment simple une organisation de l'espace visuel de l'ensemble des pictogrammes qui se déploie par complexité croissante à partir d'une forme élémentaire partout présente et partout transformée. Au sein de cet espace, tout être, y compris Wanadi lui-même, c'est-à-dire le jumeau positif, résulte d'une forme d'Odosha, le principe du mal. Des ajouts, des variantes, des rapports d'inclusion, de répétition et d'inversion s'établissent entre ces formes et en manifestent ainsi l'unité profonde. Par cette technique, l'univers de la mythologie s'est traduit donc en termes visuels, en même temps qu'une mémoire iconique des noms en même temps qu'une mémoire iconique des noms des personnages se réalise. Or, il resterait naturellement beaucoup à dire sur ces systèmes graphiques dont on pourrait développer sur d'autres plans les caractéristiques, mais je sais que je n'ai pas le temps de le faire. On pourrait remarquer seulement que ces deux principes, il y a deux principes qui travaillent ici. C'est une mise en ordre de l'espace, et d'autre part, une mise en place d'une science qui permet de reconnaître singulièrement chaque terme de la séquence. Donc on a là, du point de vue iconographique, deux principes de pensée, l'organisation d'une série de transformations et d'autre part, la possibilité d'un iconisme qui permet de distinguer un terme de la série d'un autre. Et on pourrait développer ça en disant que les questions d'ordre sont des questions de codification mnémonique et des questions de science sont des questions d'évocation mnémonique. Donc on a là un tout petit système, un tout petit art de la mémoire qui en effet contient les ingrédients de base, pour ainsi dire, de ce type d'iconographie. Or, naturellement, je ne peux ici qu'esquisser cette perspective de travail qui reste à développer. Je voudrais conclure pour l'instant que c'est certainement pas en se référant à une conscience lyrique universelle telle qu'André Breton la définissait dans son art magique qui aurait pu nous conduire à saisir dans ses graphismes l'ensemble d'opérations mentales impliquées par une tradition iconographique comme celle-ci. Même quand elle peut paraître, comme ici, particulièrement simple, son étude implique, selon l'exemple que l'œuvre de M. Lévi-Strauss nous a montré, d'aller au-delà de la contemplation des formes pour explorer l'exercice de la pensée qui en est à l'origine. C'est là un enseignement qui nous est impossible d'oublier. Merci.
Je remercie Carl Severin et nous avons quelques minutes pour ouvrir et pour faire une discussion des deux exposés que vous venez d'entendre.
Oui, je voudrais poser une question à Carlo, dont j'ai particulièrement apprécié l'intervention. Et les dessins que tu as montrés m'ont fait penser, bien évidemment, à ceux notés par Van den Steinen, je crois que c'est son nom, sur les dessins marquisiens, où on a le petit dieu polynésien Atua, qui est figuré exactement de la même manière, avec des transformations du même type. Donc la question, c'est peut-être aussi... Et là, je ferai référence aux travaux de Gombrich sur l'art décoratif. Gombrich disant, finalement, la décoration, c'est toujours faire varier des dessins d'une manière minimale. C'est un jeu permanent. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la différence ? Est-ce qu'on ne plaque pas des représentations, si tu veux, sur... Quelle différence tu vois entre l'Atua polynésien et les petits personnages des vanneries ? Voilà. Avec cette idée que partout dans le monde, la décoration joue sur des représentations minimales. Et donc, si on l'interprète à chaque fois en s'appuyant uniquement sur ce que la culture permet de comprendre, peut-être qu'on évacue un phénomène plus général, plus universel.
Oui. Bon, la question en contient plusieurs. C'est-à-dire que, effectivement, si on peut penser au tiki des îles Marquises que von den Steinen a publié sous toutes ses formes, etc. Je dirais que la différence entre ce qu'on peut dire des choses Yekuana et ce qu'on peut dire des îles Marquises réside essentiellement dans le style de travail des ethnologues et le type d'anthropologie qui est appliqué. Von den Steinen a en tête les séquences de Pete Rivers. C'est un morphologue et il fait de la connexion, du connection of form. Donc, lui, son problème est simplement de mettre en évidence des transformations formelles. Gombrich le suit là-dessus. C'est-à-dire que Gombrich a eu l'enseignement Riegel, Levy, etc., viennois, et les Viennois ont lu les morphologues. J'ai même eu la chance de trouver tout à fait le texte de Stolp qui a inspiré les problèmes de style, les Stilfragen de Riegel. Donc, or, le problème, c'est qu'on pose là l'existence d'une série de régularités de la perception et de la formulation d'images en termes vides, pour ainsi dire, en termes purement formels. Or, ce que montre le cas Yekuana, c'est que cette pensée visuelle existe dans une tradition, mais elle est aussi mise à contribution pour faire du sens et de la mémoire. Hein ? C'est ça le problème. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire avec cette ethnographie-là, c'est-à-dire qu'on peut bâtir une sorte de théorie de la tradition qui serait, elle, prédiquée sur les régularités découvertes par les morphologues. Parce que les morphologues, en substance, la morphologie et la biologie des images, aujourd'hui, c'est vraiment une sorte de dinosaure épistémologique. Personne n'en fait plus. C'est fini dans les restes, pour ainsi dire. C'est un peu comme la science des paysages de Humboldt. Hein, c'est une science qui, comme la botanique se fonde sur les aspects invisibles du monde végétal, et ben on peut imaginer une morphologie des paysages qui se fonderait au contraire sur la surface. hein, sur leur apparence. Or, cette science des apparences, dont le chef-d'œuvre est The Sense of Order de Gombrich, parce que c'est un livre infiniment intéressant et infiniment irritant, c'est-à-dire qu'il y a je ne sais plus combien de centaines d'exemples où jamais le contexte ethnographique n'est évoqué. Jamais, je dis bien jamais. Ce qui est quand même très élégant dans un certain sens. C'est-à-dire que ça donne une cohérence dans le chemin qu'il ne faut pas parcourir, qui est admirable par antiphrase, disons. Hein. Mais bon, la question, la réponse est tout simplement qu'on peut, à partir de cette reconnaissance de régularité de forme, qui justement n'est pas une régularité grammaticale, n'a rien à voir avec des formes narratives, etc., on peut imaginer de évaluer et même de calculer quel est le poids mémoriel, mnémonique, des images à l'intérieur d'une tradition orale. Hein, et donc revoir le rôle des images à l'intérieur d'une tradition orale, qui est beaucoup moins vague de ce qu'on a pu croire.
Bien, mais je crois que l'heure est arrivée pour faire une pause d'un quart d'heure et la séance reprend à 11h30.